présente l'émission de sport, l'avant-match. Entrevue, analyse, prévision, 100% sportive. Les coulisses des grandes équipes, les derniers développements, les événements sportifs déterminants. Le sport, scruté à la loupe.
Oh, quel gros week-end dans le monde du sport. Ça a duré 3 jours, des activités. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les Remparts, le Canadien, le Rouge et Or, le UFC, la boxe, un carrousel au baseball et un record de Drew Brees.
History for Brock Holt. Single, triple, double, homer.
62 yards and the record. Brees has done it. And Drew Brees has just become professional football's all-time leading passer on a touchdown pass.
OFM 93, vous écoutez l'avant-match avec Dan Pou.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 1956. On se rapproche lentement mais sûrement de la 2000e de l'avant-match. Ce sera au début du mois de décembre, évidemment. On va faire un party. On ne sait pas encore ça va être quoi le party. On ne sait pas encore qui va être invité. Mais on va organiser assurément une soirée spéciale pour souligner la 2000e de l'avant-match. Merci d'être à l'écoute. Merci de me faire des commentaires sur l'émission à chaque fois que je vous croise dans le public. À Québec, ça a été le cas dimanche au Stade TELUS pour le tailgate qu'on avait organisé avec les auditeurs. C'est toujours plaisant d'entendre vos commentaires sur l'émission et par interaction également, soit sur mon courriel personnel, soit sur les réseaux sociaux. Toujours ouvert à vous jaser. C'est toujours le fun également de vous jaser. J'ai des feuilles devant moi, mais je sais même pas pourquoi j'ai mis des feuilles devant moi avec des écritures dessus. Sérieusement, il y a tellement eu de sport dans ce week-end de 3 jours que j'ai l'impression qu'il faudrait faire une émission de 4 heures ce soir. Je vais vous dire, ça va être quoi l'émission? Ça va être fort simple, ça va être François Paquette. On a essayé de trouver un chroniqueur sportif qui était capable de parler de 8 sports en même temps. Fait que François Paquette est capable de faire ça. Donc, on s'est dit, disons, il parle 15 minutes, on va résumer à peu près tout ce qui s'est passé dans le monde du sport. Je vais m'entretenir plus tard avec Justin Étier, parce que chaque lundi, dans ce cas-ci, c'est mardi, à cause du congé d'hier, chaque lundi, au sortir d'un match du Rouge et Or, je parle avec Justin Étier, coordonnateur à l'attaque, pardon, chez le Rouge et Or. Et en fin d'émission, je vais parler avec le collègue Will pour la chronique NFL, comme on fait chaque semaine. Et on va faire une petite incartade dans cette chronique. Ce soir, on va parler de UFC. Will est un grand fan de Conor McGregor. J'ai hâte qu'il me raconte sa soirée de samedi concernant cette folie qui a frappé le UFC à Vegas, surtout pour l'après-match que pour le combat comme tel. Mais d'abord, je pourrais vous parler encore pendant 20-25 minutes. On va écouter le résumé sonore du week-end sportif. Ça va nous donner une idée à quel point il s'en est passé des choses dans les 3 derniers jours.
Dans l'avant-match, voici le résumé sportif du week-end.
C'est la seule visite du Canadien à Pittsburgh cette année. Domi contre Crosby. Et c'est parti. Kotkaniemi saute sur la rondelle à 2 contre 1. À sa sortie, ça mène au cercle gauche. Il lance. Arrêt de Murray. Et il n'y aura pas de retour. Jack Johnson, l'ancien de Columbus. Voilà, Tatar, coupe une passe. Tente un tir. Ensuite, Gallagher est contre. Brendan Gallagher. Après le tir raté de Tatar, Gallagher a découvert. Et il marque le premier but du match. 1-0 le Canadien. Et c'est comme ça que ça se termine. La victoire inattendue du Canadien, 5-1 à Pittsburgh.
Allez Montréal, allez Montréal, allez Montréal. Allez, 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 allez Montréal.
Le Rouge et Or est champion du football universitaire du RSEQ avec une fiche parfaite présentement de 6 victoires, aucune défaite.
Hey! On s'en sort avec une victoire, donc on est content de ça.
Content, oui. On est content de la victoire, c'est quelque chose de très important. Satisfait, non. Je pense pas que ce match-là aurait dû être aussi serré.
C'est une semaine de préparation extrêmement rigoureuse. Puis on était content, évidemment, du résultat.
Le champion qui défend son titre.
Et là, il faudrait pas, par contre, que ça dégénère, là. Là, il en veut aux hommes de coin de McGregor.
Et là, Nurmagomedov, je sais pas ce qu'il s'en va faire, mais il s'en va faire. Ah, et là, c'est Dallas.
Voilà.
Et c'est l'homme de coin de Conor McGregor qui parlait à Habib. Et Dylan Danis avait parlé contre Habib Nurmagomedov. Je lui disais qu'il était pas bon. Et là, regardez, là, c'est le bordel total. Oh, attention.
Quand on... Et là, là, qu'est-ce que c'est ça?
Attention,
oh là là!
Ça, c'est des fans, attention!
Wow. Là, ça devient excessivement dangereux, présent. On a perdu le contrôle, là.
Oh, ça c'est pas bon, ce Jean-Paul.
Oh là là.
Quelle disgrâce, présentement.
C'est un sport, là.
C'est le premier carrousel de l'histoire des séries du baseball majeur. Incroyable victoire des Red Sox, 16 à 1. Les 7 points des Red Sox en quatrième égale le record du plus grand nombre de points marqués au Yankee Stadium en une manche en série.
L'avant-match. Voici François Paquette.
Salut François, comment vas-tu?
Ça va bien, Dan. Merci toi-même.
Oui, ça va très bien. Merci. Sincèrement, j'ai rarement vu un week-end où il y a eu autant d'activités sportives. Je sais pas trop par où commencer. On va revenir plus tard dans l'émission avec Justin Hétier et avec Will sur le football, d'abord du Rouge et Or, mais aussi du record de Drew Brees. On va commencer par ton sport préféré. Tiens, on va commencer par les séries de baseball. Un carrousel, François. Est-ce que tu as appris hier que c'était le premier de l'histoire en série?
Oui, honnêtement, oui. Je pense que les occasions sont quand même assez rares. Puis, tu sais, dans le cas de Brock Holt, c'est que quand tu arrives à ta dernière présence, il te manque un circuit. Holt est surtout pas reconnu pour sa puissance, mais il y avait le luxe d'avoir un joueur de position sur la butte. Parce que les Yankees, ça faisait tellement varloper que c'est Austin Roman qui est venu lancer, un receveur qui est venu lancer la dernière manche. Mais, tu sais, c'est assez particulier. Puis ce que j'aime d'un gars comme Alex Cora, comme gérant chez les Red Sox, c'est que tu sais, aujourd'hui, c'est un match qui est très important. Tu veux pas retourner à la maison, tu veux finir ça, puis t'affrontes Ceci Sabathia, qui est un lanceur gaucher. Puis comme gérant, il faut que tu prennes des décisions. Ça veut dire que Brock Holt est sur le banc ce soir pour le match, même s'il a frappé un carrousel hier. c'est un frappeur gaucher contre un lanceur gaucher.
Ouais.
Pas de Devers dans la formation non plus. Puis je trouve ça intéressant parce que j'ai même vu chez les Yankees qu'on décidait de pas faire jouer le jeune Andouard ce soir pour mettre le vétéran Neil Walker.
Ouais.
Alors, toutes sortes de petits détails comme ça qui sont intéressants pour dire que c'est le match le plus important de l'année pour les deux équipes, encore plus pour les Yankees que pour les Red Sox. Mais faut admettre que cette série-là, il y a eu des hauts et des bas parce que le match comme hier, là, honnêtement, après quatrièmement, j'étais fini. Mais c'était quand même particulier de voir que celui, Mookie Betts en a fait un carrousel cette année.
Oui.
Les gars comme Yelich, comme Blackmon, mais des gars comme Brock Holt, c'est un peu plus surprenant. Mais je peux te dire une chose, c'est que Holt, c'est un excellent réserviste, un gars qui peut jouer un petit peu partout. Je suis pas convaincu qu'il est capable de jouer 160 matchs dans une saison puis de mettre des statistiques à tous les jours, mais c'est un réserviste de luxe que les Red Sox ont, puis hier, il a fait tout un travail pour aider son équipe à gagner.
Pour les plus vieux comme moi qui se souviennent des expos, c'est un genre de FP Santangelo?
C'est un bon exemple, c'est un très bon exemple, parce que tu sais, des gars qui peuvent jouer à l'avant-champ et au champ extérieur, il n'y en a pas une tonne. Il y en a qui pensent qu'ils sont capables de le faire, mais il y en a d'autres que, tu sais, c'est fantastique. L'autre exemple que je peux te donner, c'est Marwin Gonzalez avec les Astros.
Oui.
Les gens qui font des pôles de baseball, puis que tu sais, souvent, ça prend un joueur a besoin de 5 ou 10 matchs à une position pour être éligible. C'est incroyable, tu sais, Gonzalez était voltigeur de gauche, troisième but. Arrêt court, deuxième but et premier but éligible cette année. Puis, tu sais, il pourrait jouer au champ centre ou au champ droit pour dépanner sans trop de problèmes. Mais ça, pour un gérant, là, c'est l'idéal. Quand il y a un joueur qui se blesse, quand tu as besoin de donner un congé, tu as toujours quelqu'un qui est prêt, peu importe la position. Fait que c'est. Je pense que ton exemple de FP Santangelo est très bon.
François, Alex Cora et Aaron Boone, c'est deux gérants recrues. Je pense, on disait que c'était une première pour le carrousel, je pense également que c'est une première que deux gérants recrues s'affrontent en série, hein?
Écoute, en tout cas, si c'est déjà arrivé, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire, puis le scénario est différent pour les deux, mais la pression est quand même là, tu sais, je pense que dans le cas des Red Sox, tout d'abord, tu bats un record de concession pour le nombre de victoires, mais moi, j'ai encore des grosses inquiétudes, Dan, sur la profondeur de la relève, sur le lien qu'on va faire entre le lanceur partant et Craig Kimbrell.
Ouais.
Et si les Red Sox passent, t'as tellement de lanceurs gauchers dans, tu sais, tes bons lanceurs qui sont supposés être tes meilleurs, comme Sale, comme Price, Rodriguez, qui est supposé être ton arme en relève, Et je pense que les Astros ne seront pas intimidés parce qu'ils ont beaucoup de frappeurs droitiers, puis que c'est peut-être ça qui va causer la perte des Red Sox. Mais du côté d'Aaron Boone aussi, il y a de la pression parce que, tu sais, Girardi est parti.
Il s'est fait critiquer hier aussi.
Eh bien, critiqué, puis pas à peu près. Puis lui, Boone disait qu'il avait décidé d'écouter de la musique en revenant, au lieu d'écouter les lignes ouvertes. Mais il dit, j'ai tellement reçu de messages textes qui me disaient, garde la tête haute. Et je comprenais que j'étais en train de me faire varloper sur les lignes ouvertes de New York parce que on lui a reproché d'avoir gardé Luis Severino trop longtemps en quatrième. Tu sais, c'était 3-0 à ce moment-là. Ouais. La chaîne a débarqué en quatrième quand ils ont donné 7 points. Mais oublie jamais qu'Aaron Boone arrive puis il remplace un gars comme Joe Girardi qui a été là pendant 10 ans, qui a gagné la Série mondiale, qui, je pense, est un gérant qui faisait les choses à sa façon, mais qui était quand même très apprécié des médias et des gens qui le côtoyaient jour après jour, puis qui a eu quand même un certain succès. Puis là, ben l'an passé, les Yankees sont venus à une victoire près d'aller en Série mondiale, donc les attentes sont quand même élevées. Mais on a l'air un petit peu mal pris sur la butte depuis le début des séries. Puis dans un match comme ce soir, ce que tu veux, c'est que Sabathia te garde dans le match pendant 3, 4, 5 manches, ce sera un luxe. Puis après ça, tu vas toutes les voir défiler un après l'autre. Robertson, Betances, Chapman, Green et compagnie. Je pense que c'est ça la recette du succès pour les Yankees. On marque quelques points, on réussit à se sauver avec nos releveurs. On a une journée de congé demain, puis un match 5 où tu peux arriver par la suite. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Mais le duel de lanceurs avantage les Red Sox, je pense, avec Porcello. Mais hier, je disais la même chose en parlant des Yankees. Je trouvais que Severino, c'était un avantage chez Eovaldi. Puis regarde, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Donc, bien curieux de voir quel genre de match on va avoir ce soir pour le match numéro 4.
François, on disait que Aaron Boone a été critiqué, mais je pense que la personne impliquée dans ce match-là qui s'est fait le plus critiquer hier, c'est l'arbitre au premier but.
Ben, c'est quoi la mauvaise nouvelle? En passant, c'est Angel Hernandez qui, depuis 7 ou 8 ans, c'est lui qui gagne le sondage à chaque année du pire officiel dans le baseball majeur.
Est-ce que j'ai compris qu'il arbitre au marbre ce soir?
C'est exactement ce que j'allais dire, puis c'est ça mon inquiétude un peu, parce que honnêtement, tu sais, puis c'est pas facile à être arbitre, c'est pas facile dans aucun sport, là, c'est très difficile, mais je veux dire, Angel Hernandez est pas un arbitre du calibre du baseball majeur. C'est un gars qui, tu sais, puis c'est plate à dire, mais je veux dire, c'est le syndicat des arbitres qui l'a gardé là avec son expérience, puis le fait qu'il est là depuis quand même un bon bout de temps.
Ouais, mais il pourrait surveiller la ligne dans le champ droit.
Puis encore là, je suis pas mal sûr qu'il réussirait à faire parler de lui pour les mauvaises raisons. C'est parce que, tu sais, c'est un gars qui... Tu sais, tu l'as ou tu l'as pas quand t'es arbitre au niveau du jugement. Ça s'achète pas du jugement. Puis Hernandez, c'est pas un bon officiel. Il y en a 4 ou 5 comme ça dans le baseball majeur. Là, okay. Steve Buckner puis ces gars-là qui... Tu sais, à chaque année, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Il y a des officiels, des fois, qui sont bons, mais que leur attitude fait en sorte que les gens les détestent. Mais dans le cas d'Hernandez, c'est comme le mélange des deux, parce que c'est un gars qui manque de jugement, qui souvent, tu sais, lui, il dit qu'il a pris la bonne décision, puis ça fait des flamèches. Puis j'ai hâte de voir, parce qu'habituellement, derrière le marbre, il est tellement pas constant dans sa zone que des fois ça donne, tu sais, non seulement les frappeurs viennent qu'à l'haïr, mais les lanceurs aussi, puis ça finit que la tension monte. Donc c'est plate à dire, mais je pense que ce gars-là ne devrait plus arbitrer dans le baseball majeur, comme c'est le cas pour CB Buckner, comme c'est le cas pour Joe West, qui est rendu à je sais pas quel âge, qui est là depuis 50 ans. C'est une couple de gars comme ça qui serait dû pour la retraite. Mais j'espère simplement que demain, on va parler, tu sais, je sais pas, d'un circuit de 3 points, d'un gros retro bâton, et non pas de la performance de l'officiel derrière le match.
Donc, c'est pour des gars comme ça qu'on a amené la reprise vidéo?
Ben, écoute, hier, il y en a quoi, 3 sur 4 qu'on a changé dans ces décisions? À sa défense, il y en a au moins 2 là, que c'était excessivement serré. Tu sais, je regardais la reprise, puis probablement les gens qui ont regardé le match. Tu sais, quand ça fait 5 fois, tu le vois, puis t'es pas convaincu encore à 100%. Je pense que là, faut que tu donnes le bénéfice du doute à l'officiel.
Oui. Ça va
mais
vite.
C'est exactement pour ça, Dan, qu'on a amené la reprise vidéo. Parce que dans des situations où des matchs aussi importants, puis des décisions qui peuvent changer un match, tu sais, regarde simplement, Dan, dans le match numéro 1, Colorado-Milwaukee, Charlie Blackmon avait frappé un double en début de 9e, puis finalement, on a ramené la décision parce que, justement, avec la reprise, on a pu confirmer que la balle était hors ligne. Oui, Blackmon avait frappé un simple plus tard, mais ça a peut-être changé complètement l'allure de la série parce qu'on a ramené cette décision-là. Puis c'était la bonne, sincèrement, de ramener la décision. Mais, tu sais, si tu retournes dans le temps, là, dans l'histoire du baseball, puis tu avais eu la reprise dans quelques matchs très importants, je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu aurais des champions de série mondiale qui seraient différents dans l'histoire, parce que il y a eu des décisions dans l'histoire du baseball en série qui ont changé l'allure, tu sais, d'un match, d'une série, puis qui ont fait en sorte qu'on n'a pas eu le résultat qu'on aurait dû avoir. Donc, c'est exactement pour ça qu'on a amené la reprise vidéo, mais tu sais, C'est bon, c'est moins bon. C'est, tu sais, il y a un côté un peu plate parce que là, les matchs sont longs. Il y a des reprises. Il y a ci, il y a ça. À un moment donné, je trouve que ça manque un peu de rythme. Mais au moins, si tu rends la bonne décision, ben, t'as moins de chances de te faire critiquer par la suite. Là.
François, si on change de sport puis on s'en va vers le hockey puis on parle brièvement du Canadien qui a quand même surpris la planète hockey en allant battre les Pingouins samedi à Pittsburgh par 5-1 et non une victoire serrée en prolongation. Je pense que si on avait à faire le bien cuit en date d'aujourd'hui de Marc Bergevin, je pense que l'une de ses pires décisions, ça aurait été d'embaucher sur le marché des joueurs autonomes le très mauvais défenseur Carl Alzner. Mais un de ses meilleurs coups, c'est d'avoir pris au balotage Paul Byron. Je regardais jouer Paul Byron samedi. Il joue comme un gars de la Ligue nationale qui est là depuis 10 ans. Il est sur la job, si tu me prêtes l'expression. Il patine, il a un très bon sens du hockey. Et le drame avec Paul Byron pour nos poules de hockey, c'est qu'on ne peut pas le sélectionner parce qu'il joue toujours sur le troisième trio avec deux gars très ordinaires. Et il aurait le talent offensif, le flair et le sens du hockey pour faire encore plus de points s'il jouait avec deux gars talentueux.
Oui, puis tu sais, c'est toujours le genre de gars qui va jouer plus de temps en désavantage numérique qu'en avantage numérique. Habituellement, c'est même si tu fais ta job, c'est pas très payant pour les épaules. Puis je sais pas si dans 5 ou dans 10 ans, puis je sais pas, Marc Bergevin va travailler encore pour combien de temps comme directeur général du Canadien, mais je pense que pour le moment, il y a plusieurs de ces bons coups qui sont des coups qui sont passés un peu tu sais sous le radar. Puis Byron est probablement le plus bel exemple. Mike Riley, choix de cinquième ronde l'an passé.
Oui, puis,
écoute, on en avait à peine parlé. Les gens disaient que c'était pour venir boucher un trou. Ce gars-là est en train de sortir de sa coquille et de nous faire comprendre pourquoi tout le monde salivait à l'idée de l'avoir quand il est sorti de la NCAA. Joel Armia n'a rien cassé, mais tu sais, c'est le genre de transaction où ça t'a pas coûté grand-chose. Ce que tu as eu à faire, c'est de récupérer le contrat à Mason puis de le racheter par la suite. C'est plein de petits gestes, petites transactions qui font en sorte que c'est les meilleurs coups. T'sais, on dirait que tout ce qui a été essayé dans le coup les plus spectaculaires, puis il y a encore des transactions comme Drouin puis comme Domi qu'on va attendre pour en tirer une conclusion. Ça va probablement prendre beaucoup de temps, savoir si le Canadien a gagné ou pas ces transactions-là. Mais je trouve que c'est jamais bon signe quand ton directeur général, la plupart de ses coups qu'il réussit, ce sont des coups qui sont plus minimes. Là. Ce sont pas des coups majeurs, mais faut quand même là-dessus leur donner le crédit parce que c'est des petits détails des fois que quand Paul Byron était ramassé au balotage, les gens disaient bon, encore un autre petit joueur. C'est toujours ça qu'on entendait, mais les gens qui l'ont vu jouer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec avec le coup de patin qu'il avait, c'est certain qu'il pouvait se trouver une place, une niche dans la Ligue nationale, mais je pensais pas qu'il réussirait à produire autant. Puis même Dan, quand on lui a donné sa prolongation de contrat il y a environ quoi, 2 semaines, tu sais, ma première réaction au départ, c'est de dire c'est quand même beaucoup d'argent pour un grinder de luxe, mais comme tu as mentionné, c'est que quand tu le vois jouer des matchs comme samedi où il fait en sorte que son coup de patin puis son flair offensif lui donne un avantage sur bien d'autres joueurs, je pense que ce gars-là mérite amplement son chèque de paye parce qu'il est des travailleurs acharnés, mais aussi talentueux. Il n'y en a pas une tonne non plus dans la Ligue nationale de hockey.
Tout comme moi, tu as dû lire l'histoire saisissante concernant Lyle O'Dolan qui va être à Montréal cette semaine pour le 25 ans de la Coupe Stanley de 93. J'ai l'impression que c'est une fête sans le jubilaire jeudi soir au Centre Bell. Patrick Roy les a fait gagner une Coupe Stanley en 93. Il dirige les Remparts maintenant. Puis il a fait une petite vidéo qu'on va présenter au Centre Bell. Mais il me semble que Martin Laperrière, pour jeudi, il aurait pu coacher l'équipe juste pour un soir.
Ben en fait, tu sais, moi, je te dirais que c'est le deuxième membre le plus important qui sera pas là. L'autre, je sais pas s'il va être là, mais Jacques Demers.
Oui, oui.
Même s'il est là, évidemment, les problèmes de santé. Parce que pour moi, 93, c'est deux noms. Là. C'est Patrick Roy, mais c'est aussi Jacques Demers.
Exact. Et,
Jacques Demers, écoute, si les gens ont jamais eu la chance de lire sa biographie, prenez le temps de faire ça. C'est en français. C'est fantastique de voir l'histoire d'un gars qui a connu une jeunesse excessivement difficile. Tu sais, que même ton père t'a dit que tu iras pas loin dans la vie, puis que tu te retrouves à gagner la Coupe Stanley. Les gens de RDS RDS avait fait, je pense, un 25 ans d'émotion là-dessus avec Jacques Demers. C'était fantastique comme émission. Puis je suis d'accord avec toi pour dire que ça va donner... Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais pas qui seront tous les joueurs qui seront là. Mais assurément, tu sais, il te manque le gars qui a été ton joueur par excellence. Et ton entraîneur-chef n'a plus l'usage de la parole. Donc, ça va peut-être perdre un petit peu son lustre. Mais l'histoire du Canadien de 93 va quand même rester une histoire très particulière, qu'on aime ou non le Canadien. Puis évidemment, à l'époque, on le vit encore plus mal parce que les gens se rappellent que les Nordiques avaient gagné les deux premiers matchs pour se faire éliminer par la suite. C'est sûr qu'on n'avait pas le Canadien dans notre cœur. Mais si vous prenez le temps de regarder à nouveau les séries, les 10 victoires en prolongation consécutive, oui. Ça, ce sera jamais revu dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Puis, tu sais, il y avait plein de gars, là, des Gilbert Dionne, des Paul Di Pietro, puis vraiment, je te parlais tantôt de Grinder de luxe, là. Des gars qui ont connu les meilleurs moments de leur carrière lors de ces séries-là. Puis, il y a quelques gars qui étaient sortis de leur coquille aussi. Donc, l'histoire est vraiment, quand même assez incroyable. Puis, ça reste aussi la dernière équipe canadienne qui a gagné une Coupe Stanley. C'est assez incroyable de se dire ça. Donc, je sais pas, la prochaine Coupe Stanley au Canada est peut-être plus proche qu'on pense avec les Jets puis les Maple Leafs, mais pour nous, dans notre cours, on risque d'attendre encore un bon bout de temps.
Mais les fans de Kotkaniemi, eux autres, pensent que ça va arriver à Montréal avant Winnipeg et Toronto. François, sois prudent.
Et moi, je vais te dire une chose, c'est que je pense que même les gens vont déchanter assez rapidement cette année sur les résultats. Je pense que le travail, tu sais, les gens aiment l'éthique de travail. Ouais.
Mais ça va être moins pire s'ils perdent puis ils travaillent.
Je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que je pense que les gens, tu sais, écoute, on a toujours été comme ça, on est un peu bipolaire au niveau du sport. Les gens deviennent complètement fous parce que le Canadien réussit à aller gagner à Pittsburgh, puis c'est une très belle victoire. Mais hey, là, c'est quand les gens commencent à parler de série, on va se calmer une petite seconde. Là, t'as aucune profondeur, ou surtout que t'as une blessure, t'es dans le trap. Puis j'ai hâte d'avoir un club jeune, un peu fragile. À un moment donné, tu t'en vas. Je sais pas, un voyage dans l'Ouest, là, Anaheim, Los Angeles, San Jose et compagnie. Et je suis pas sûr que le Canadien va faire le poids dans des situations comme ça. Mais au moins, tu sais, comme tu dis, ils travaillent, ils gagnent quelques matchs en début de saison, ça peut peut-être te garder dans la course un petit peu plus longtemps. Mais je pense que les choses pourraient changer très, très, très rapidement quand on va frapper un mur. Je sais pas si ça va être d'inexpérience, de manque de profondeur, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que le Canadien va réellement frapper un mur.
Et juste pour compléter sur Jacques Demers, pour la Coupe de 93, François, je pense que le meilleur flair ou la meilleure décision que Jacques Demers aura prise, ça aura été de devenir chum avec Patrick Roy puis de lui faire confiance.
Oui. Puis c'est pas pour rien qu'il y a eu des flamèches quand Mario Tremblay est arrivé, tu sais, dans les années. Écoute, Jacques Demers, c'est en 93, il a été congédié je pense que c'est début 95 ou 96 qu'il a été congédié. Puis les gens connaissent un peu l'histoire quand Mario Tremblay arrive dans le vestiaire, puis.
Il fait l'inverse de Jacques Demers.
Oui, puis tu sais, son anglais un petit peu saccadé, puis bon, on dit que Patrick était parti à rire, puis que tu sais, c'était juste à cause de son accent, puis ça avait bien mal commencé, puis c'était sûr que ça allait mal finir, puis c'était tout le contraire. Puis je pense que Jacques Demers avait compris ça, que non seulement Patrick Roy était ta vedette, mais dans l'attitude de Patrick, je pense que c'était le coach parfait, parce que tu sais, c'était « Viens t'asseoir dans mon bureau. Quand est-ce que tu veux garder les buts? Parfait. Tu sais, après une période, ça a mal été. Tu veux-tu rester dans le match? » Ou, tu sais, c'est pas « Je prends la décision. » Je pense qu'on travaillait main dans la main, puis il s'est assuré d'avoir son meilleur joueur de son bord, puis que son meilleur joueur lève son jeu d'un cran en série. Puis je pense que c'est pas avec n'importe quel entraîneur. Pas n'importe quel entraîneur pouvait faire ça avec n'importe quel joueur, mais là, je pense que le fit était parfait dans l'attitude du coach vers le joueur. Puis je pense que là-dessus, Patrick pourrait te le confirmer que chaque minute qui a passé sous la gouverne de Jacques Demers, je pense qu'il l'a apprécié avec le Canadien de Montréal.
Absolument. Gros merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée.
Pendant que les joueurs enfilent leurs patins, au FM 93, on donne tout un show. L'avant-match, lundi au vendredi, 18h, avec Dan Pou.
Votre prochain hiver, vivez-le au volant d'une Rio avec les pneus d'hiver et l'entretien 2 ans en cadeau, volant et siège chauffant plus la caméra de recul inclus. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. C'est l'événement toujours en tête. Rio à partir de 39$ par semaine chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
Papa, entre au Tim Horton. Regarde le menu. Commande un café 2-2 et...
Un paquet de cartes à collectionner LNH, s'il vous plaît.
La saison du hockey est de retour avec les cartes à collectionner LNH Tim Horton. 1$ à l'achat de toute boisson. Taxe en sus, offre d'une durée limitée dans les restaurants participants.
Pentagone, c'est une compagnie du Québec. dont le siège social est à Québec depuis 2012. Il y a des boutiques partout en province et ici, dans la région de Québec. Il y a des magasins Pentagone au Galerie de la Capitale, au Promenade Beauport à Place Fleur-de-Lys dans le Vieux-Québec, au Carrefour Charlebourg, au Mégacentre de la Rive-Sud à Saint-Romuald et aux Galeries Chagnon à Lévis. Si vous cherchez du linge, que ce soit des jeans, des chemises, des T-shirts, des boxeurs pour les gars, des manteaux d'hiver, ils ont tout ça. Et quand vous entrez chez Pentagone, vous n'aurez pas l'impression que les gens veulent vous vendre à tout prix. C'est comme un partenariat. Les gens vont vouloir être amis avec vous. C'est pas dans tous les magasins qu'on peut avoir ça. Et nous, les gars, particulièrement, on apprécie ça. Il y a une nouvelle ligne de vêtements également pour hommes qui a fait son entrée cet automne dans les boutiques Pentagone. ACTA, A-K-T-A. C'est des T-shirts, des chandails confortables, des designs urbains. Vous avez tout ça chez Pentagone.
Alors, au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent. Caroline, qu'on a eu du fun. Les fins de semaine au chalet à faire du 4 roues, du bateau, ski nautique, la belle vie. Hein?
Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans.
Mais après deux mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses.
Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites-le 1-855-R-CHABOT. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi.
Cette année, choisissez de mieux voyager. Nos forfaits de vacances exceptionnels, tout compris, à seulement 1 295 $, taxes incluses, sont presque tous vendus. Il n'en reste que 3 000. Hâtez-vous et réservez afin d'obtenir le meilleur prix garanti sur les hôtels et excursions les mieux cotés, ainsi qu'un service primé. Réservez dès aujourd'hui auprès de votre agent de voyage ou sur...
Cette année, l'automne s'annonce exceptionnel.
Il va faire beau soleil, 25 degrés, puis j'aurai pas besoin de racler des feuilles?
Non.
Ah.
Mais le service certifié offre un prix sur les pneus d'hiver qu'on n'a sans doute jamais vu dans l'industrie. 150 $ de rabais en utilisant la carte Visa GM de la Banque Scotia, avec en plus jusqu'à 100 $ en rabais postal. C'est jusqu'à 250 $ de rabais possible.
Excellent, mais là, je vais devoir racler.
Oui,
ah.
Mais plus tard. Peu importe la marque de votre véhicule, visitez votre service certifié des concessionnaires Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac. Détails sur monservicecertifié.ca.
Les fromages d'ici présentent une pointe de avec Anthony Cavana.
Aujourd'hui, la pointe de malaise. Entre amis autour d'un gouda d'ici, ma femme propose un petit jeu. Chacun doit inscrire en secret avec qui il aimerait une aventure d'un soir. En lisant les papiers à haute voix, je réalise que tous les autres ont choisi des vedettes internationales inaccessibles. Alors que moi, j'ai écrit le nom de notre voisine immédiate. J'éprouve alors une pointe de malaise.
Une pointe de vous a été présentée par les fromages d'ici, les meilleurs.
Pendant l'événement Toujours en tête, offrez-vous une Kia Forte ou un Sportage 2018 à prix de liquidation. C'est le temps ou jamais de vous offrir une Kia au plus bas prix de l'année. Passez chez votre concessionnaire Kia et profitez-en pour faire un essai jusqu'au 31 octobre, seulement chez Kia.
Vachon a un concours avec 10 boîtes gagnantes. Réalise ton vœu de fête.
Même si c'est pas ta fête, avec 2 000 $ grâce aux boîtes spécialement identifiées en épicerie.
Aucun achat requis.
Règlement et chance de gagner à
joyeuxvachon.com.
Pourquoi vous faire mourir à pelleter? Pensez Abri CBI, le leader à Québec pour un garage de toile, portique, passage standard ou sur mesure. Pensez Abri CBI pour la location d'un abri d'hiver. Financement disponible, pensez abricbi.com.
Cet hiver, Family Prix vous permet d'éviter les files d'attente et vous aide à prévenir la grippe. Prenez rendez-vous sur familyprix.com pour votre vaccin. Family Prix, ma destination santé. Succursale participante seulement.
Chez Honda de Giro, le CR-V 2018 est à un taux de location de 1,99% jusqu'à 42 mois. Faites le calcul et vous irez vous aussi. Chez Honda de Giro à Montmagny, toujours ouvert le samedi.
FM 93, vous êtes un gagnant? Alors vous êtes d'abord un participant. C'est votre tour.
Jouez au jeu.
Au secours de l'expert.
Dans Ségal la voix le midi, Myriam tentera de déjouer les connaissances de Luc Lavoie. Et si vous pouvez lui venir en aide, vous remportez l'une des nombreuses cartes cadeaux de 50 $ au Shaker Cuisine et Mixologie. Jouez à Au secours de l'expert dans Ségal la voix le midi.
Le FM 93.
FM 93.
Concours FM 93. Ça me parle.
Dans l'avant-match, le week-end du Rouge et Or football avec le coordonnateur offensif Justin Étier.
FM 93, ça me parle.
On en a parlé toute la semaine de ce fameux match entre le Rouge et Or et les Carabins. Et finalement, dimanche, on a eu la cerise sur le Sunday. On a eu un match qui s'est soldé en prolongation à l'avantage du Rouge et Or. On ne pouvait pas demander beaucoup mieux pour les 18 200 quelques spectateurs qui étaient présents au Stade TELUS. On va revenir sur ce match, comme on le fait en début de semaine, chaque semaine dans l'avant-match, avec Justin Étier, qui est coordonnateur à l'attaque chez le Rouge et Or. Salut, Justin.
Salut, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Oui.
Ça va bien.
Est-ce que le pointage final du match est un baume sur les quelques déceptions que tu as eues pendant le match?
Ah, c'est sûr qu'à la toute fin, là, je veux dire, au bout de la ligne, d'obtenir la victoire, l'avantage du terrain, la première place, ça, c'est sûr que c'est la plus grande satisfaction que tu peux avoir. Donc, tu sais, je pense qu'après ça, le jour après, tu vas analyser les choses que... Il y a toujours des choses à analyser. Il y a toujours des choses qu'on n'est pas satisfait.
Ouais.
Puis évidemment, il y a eu quelques gros jeux là, qu'on aurait aimé avoir. Mais au bout de la ligne, on s'en est sorti. Les joueurs apprennent à vivre de l'adversité dans des gros matchs. Donc ça, c'est bon pour les séries. Donc il y a quelques situations dans le match qu'on était déçus. Mais encore une fois, au bout de la ligne, là, de finir avec cette victoire-là, on était très satisfaits.
Est-ce que tu dirais que... je sais que vous n'aimez pas les entraîneurs cibler des joueurs en particulier, mais est-ce que tu dirais que Mathieu Betts a fait une énorme différence dans le résultat du match dimanche?
Oui, absolument. Il fait la différence dans pas mal tous les matchs.
Ouais.
C'est un joueur d'exception. Mais ça fait partie du sport.
Ouais.
Ça fait partie, quand tu as la chance d'avoir un joueur d'impact comme ça, quel que soit le sport, ben c'est ça qui fait souvent le succès d'une équipe. Je veux dire, donc c'est sûr qu'il y a un gros impact avec nous depuis le début. Et c'est sûr qu'il fait des très gros jeux. Puis ce qui est le fun à voir, c'est que Mathieu, comme les très très bons athlètes, il fait ses gros jeux dans les grands matchs.
Ouais,
donc c'est ça qui est le fun à voir. Tu sais, des fois t'as des joueurs qu'on dirait qui vont disparaître dans des grands matchs, tandis que Mathieu, on dirait tout le temps que c'est là que ça se passe avec lui. Donc non, c'était vraiment, c'est sûr que moi j'ai pas énormément le temps pendant le match de le voir aller, là, mais ça reste que tu le vois par la suite, c'est
exact.
Extraordinaire encore une fois.
Justin, est-ce que je me trompe ou vous êtes allé plus par la passe que dans le premier match au Sepsum?
Moi, je dirais qu'on a quand même été assez agressif. On a confiance en notre attaque aérienne. On sentait qu'il y avait beaucoup de situations homme à homme, puis on pensait qu'on pouvait capitaliser sur ça. Donc, je te dirais, oui, probablement un peu plus. On a eu aussi un peu plus de jeu. Donc, c'est sûr que c'est... En ce moment, on part toujours quand même, tu sais, l'équilibre entre l'attaque au sol, l'attaque par la passe, c'est sûr que c'est important à mes yeux. Faut comprendre aussi parfois qu'il y a des jeux d'options, donc ils se transforment un peu en jeu de passe. Maintenant, ce match-là, on a quand même eu recours à la passe. Encore une fois, je suis super satisfait de la production. Encore une fois, si avant le match, on me dit que l'attaque va avoir 440 verges d'attaque, c'est sûr que je vais dire oui. Puis si on me dit qu'on va avoir au-dessus de 300 verges par la passe, je vais dire oui. Mais encore une fois, dans ces matchs-là, souvent, on en parle beaucoup, c'est les détails. Puis là, c'est sûr qu'il y a quelques petites situations, un peu comme le premier match qu'on aimerait avoir. Donc, il faut faire en sorte que si on les revoit une troisième fois, il va falloir s'assurer là, de... Il y a vraiment eu des petits détails qu'on peut pas se permettre. Puis on se cachera pas, là, je veux dire, tu peux pas te retrouver à la ligne de une, premier les buts après un énorme jeu de 70 verges, puis te retrouver 13 joueurs sur le terrain. Je veux
non,
dire,
c'est
pas acceptable. Puis écoute, on va tout faire pour ça. Ben, dans mon cas, ça fait longtemps que je suis coordinateur, je t'avoue, je pense que c'est la première fois que ça arrivait.
Ouais.
Mais au bout de la ligne, on n'a pas cherché. C'est pas des joueurs, c'est ces situations-là. Au bout de la ligne, c'est moi le responsable. Puis c'est moi qu'il faut qu'il s'assure que la communication soit meilleure entre tous les acteurs dans cette situation-là. Mais ça peut pas arriver. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Y a pas, on peut pas chercher à dire ah ben là, c'est carrément, puis on, ça a été clair, tu sais, au bout de la ligne, je suis le responsable de ça, mais on le vit quand même en équipe en disant, ben, ça ne se reproduira plus.
Okay, c'est ça le but. Puis puisque tu es sur les mauvaises punitions, même en début de match, à moins que je me trompe, mais en début de match, j'ai remarqué que vous avez pris des punitions alors que vous étiez en attaque au moment où la foule est silencieuse. J'ai pas vu ça souvent, Justin, dans les dernières années, ici à Québec.
Ouais, non, on en a parlé, c'était un peu bizarre. On essaye d'avoir, on considère qu'on a un gros avantage de jouer à la maison, ouais. Mais je suis d'accord avec toi que la deuxième série offensive, on aurait vraiment cru qu'on jouait sur la route. Je te dirais qu'il y a eu un peu de nervosité en début de match, ce qui est normal un peu aussi. Je te dirais que par la suite, au moins la bonne nouvelle, quand tu vois ça aller une place, tu dis bon là, c'est quoi, on va-tu passer la journée à faire ce genre d'erreur-là, mais par la suite, je pense que ça l'a disparu. Donc, mais c'était une drôle de séquence. Mais ouais. Ça, encore une fois, je pense c'est de la nervosité. Puis ça, tu t'en sortiras jamais. Tu sais, de la nervosité, il va toujours en avoir un peu au début des matchs. Tu sais, encore une fois, quand on fait l'analyse de ça, bon, à 12-5, le ballon échappé, retourné pour un toucher, tu sais, ça, t'as bien beau te lancer dans les murs.
Ça va
arriver. Tu sais, je veux dire, j'étais arrivé chez nous après ça, puis j'ai vu les Eagles, qui sont les champions du Super Bowl, échapper un ballon que les Vikings ont reviré pour un toucher. Je veux dire, ça arrive dans le sport, ça arrive dans le football. Puis ça, il faut que tu vives avec ça, il faut que tu sois capable de gérer cette adversité-là. Donc, je pense que nos joueurs ont bien réagi à ça. Je pense que, puis encore une fois, bon, des interceptions, ça va finir par arriver. Comme je dis, Hugo a lancé sa première interception de la saison au début du troisième quart. Puis comme on a dit, ben la deuxième interception, ça, c'est rare aussi qu'on l'analyse comme ça, mais c'est un jeu extraordinaire du joueur des Carabins. Mais on l'a vu, nous, d'un point de vue où est-ce que le jeu d'avant, on était 13 sur le terrain. Donc, ce jeu-là n'aurait jamais dû arriver parce qu'on aurait dû concrétiser à la ligne de une. Donc, c'était une situation, je le dis, un peu cauchemardesque là, pour l'attaque. Là. Ouais. Mais encore une fois, très, très fier des joueurs. Les joueurs n'ont pas paniqué. Puis tout le monde a passé à travers ça. Puis on a remporté une belle victoire à la fin.
Justin, aviez-vous un plan de match établi, Glenn, toi, Marc Fortier et les autres entraîneurs, en ce sens où il y avait une situation en fin de match qui pouvait se produire où vous alliez peut-être donner la victoire aux Carabins, mais conserver l'avantage du terrain?
Ouais, ben c'est sûr que on n'a pas le choix de pas comme si on en a parlé beaucoup, mais je pense qu'encore une fois, c'est Glenn qui est le responsable de faire toute cette analyse-là. Puis c'est sûr qu'il y avait des scénarios à la fin qui étaient encore une fois, on s'est pas rendu là, puis j'étais un peu content parce que c'est sûr qu'on espérait vraiment, au bout de la ligne, remporter ce match-là devant nos fans. T'as 18 000 personnes dans le stade. Ouais. Ça aurait été difficile de concéder une victoire pour l'avantage du terrain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est pas rendu là, puis on a pu remporter le match. Donc, mais c'est sûr que t'as pas le choix de considérer ces scénarios-là parce que entre nos deux équipes, c'est sûr que l'avantage du terrain, c'est énorme dans le sens que ça veut pas dire, c'est pas une garantie. Mais tu sais, tantôt, t'as parlé des erreurs, des punitions en début de match. Ben, tu sais, ça, c'est difficile quand on est sur la route avec le son de la foule. Ouais. C'est sûr que c'est un désavantage pour l'attaque. Donc, c'est toutes des petites choses que l'avantage du terrain en série, c'est très important. Encore une fois, c'est zéro garantie. Je pense que les deux équipes ont prouvé dans les dernières années qu'ils pouvaient aller gagner sur le terrain de l'autre équipe. Mais c'est sûr que d'avoir la chance de passer potentiellement toutes les séries éliminatoires dans nos affaires, c'est sûr que c'est un gros, gros avantage.
Justin, avant de te laisser, peux-tu expliquer à nos auditeurs la réglementation de la prolongation? Parce qu'on n'a pas vu beaucoup de matchs se terminer en prolongation dans vos 24 années d'existence.
Ouais, ben maintenant c'est ça, c'est un peu comme aux États-Unis là, ce qu'on appelle un shootout. Donc il y a un tirage au sort, puis chaque équipe a au fond une possession offensive à partir de la ligne de 35, évidemment dans le territoire adverse. Donc le tirage au sort détermine l'équipe qui décide s'ils veulent aller en premier ou en deuxième. Évidemment, tant et aussi longtemps que le score est égal, ça se poursuit. Ouais. Donc par exemple, ça, c'est peut-être un point intéressant. Donc, par exemple, en fin de semaine, défensivement, c'est Montréal qui a commencé parce que nous, on a gagné le tirage au sort. Donc, souvent, quand tu gagnes le tirage au sort, t'aimes que l'autre équipe aille en premier pour savoir exactement ce que tu dois faire. Mmh. Nous, c'est un avantage dès que Montréal n'a pas compté, c'est un avantage pour nous parce que là, on sait exactement qu'est-ce qu'on a de besoin.
Ah oui, 3 points, c'est assez rendu là.
Oui, exactement. Mais c'est intéressant, par exemple, si, par exemple, Montréal marque un touché, là, oui. Nous, on y va, nous, on marque un touché, là, la prochaine séquence, c'est nous qui aurions été en premier.
Inversé, donc, oui.
Inversé,
oui.
Exactement. Oui. Okay. Et là, écoute, ça peut se continuer jusqu'au lendemain. Là.
Oui.
Tant et aussi longtemps que c'est égal, là, évidemment, j'exagère, mais non, on a vu aux États-Unis des matchs qui s'éternisent jusqu'à 6-7 poussées. Là, donc, ça peut être long, c'est très excitant.
Est-ce que c'est une nouvelle réglementation au RSEQ ou ça a toujours été comme ça depuis que tu es avec le Rouge et Or?
Non, ça existe depuis longtemps parce que, écoute, je remonte jusqu'à... je me souviens qu'une année, on a gagné un match, c'était en 2006, on a gagné un match en prolongation comme ça. Donc, ça existe à peu près depuis 2004-2005 dans ce coin-là.
OK, parfait. Ouais. Allez, gros merci, bonne soirée à toi.
Merci Dan, bonne soirée.
Salut Justin. OK, maintenant, on va écouter des extraits que nous a recueilli notre collègue Mathieu Boulay immédiatement après le match. On débute avec la carrière du Rouge et Or, Hugo Richard.
Satisfait, je dirais que non. Content, oui. On est content de la victoire, c'est quelque chose de très important. Satisfait, non. Je pense pas que ce match-là aurait dû être aussi serré. Surtout du point de vue de l'attaque, notre défensive a fait un très beau travail, mais on peut pas se faire limiter autant que ça du point de vue des points.
Qu'est-ce que vous devez faire de façon différente?
Il faut capitaliser. On était une couple de fois dans leur zone. Il faut vraiment prendre avantage de ces situations-là, au moins sortir de là avec 3 points. Puis possiblement avec des touchés.
Maintenant, on va écouter l'excellent Mathieu Betts, probablement encore une fois le joueur du dernier match.
Je suis content qu'on passe à d'autres choses, évidemment. Les séries approchent, puis c'est pas que c'est une distraction, pas que ça me mettait de la pression. Moi, j'étais déjà super content d'avoir égalé le record. Mais là, je suis content qu'on passe à autre chose, puis qu'on en parle peut-être plus autant. Là.
Où tu places au-delà du record? Tes 4 sacs du corps, je pense que c'est 5 ou 6 plaquettes ou ça. Tu places ce match-là dans ta carrière ici à Laval?
C'est une bonne question. Définitivement, dans les plus hauts. C'est certain que nous, on veut avoir des bonnes performances en tout temps, mais je pense que ça a été une semaine de préparation extrêmement rigoureuse. Puis on était contents, évidemment, du résultat. Mais je pense que tout le monde a embarqué là-dedans défensivement, puis c'est dans les bonnes performances qu'on a livrées défensivement.
Lui, Mathieu Betts, non seulement il est bon, mais il est bon quand ça compte. Ça m'impressionne encore plus. On va écouter maintenant l'entraîneur des Carabins, Danny Maciocha, immédiatement après le match. Je vous rappelle que les deux équipes auront un rendez-vous ici le 10 novembre prochain pour la Coupe d'Onsmore.
C'était quelques jeux, puis il manquait pas grand-chose d'aller chercher une victoire dans les derniers moments avant d'aller dans la période de prolongation. Malheureusement, c'était pas le cas, mais c'est toujours une question de jeu, quelques jeux entre ces deux équipes. Alors, moi, ça fait 8 ans que j'ai l'Université de Montréal, j'ai 2 Coupes d'Onsmore à mon nom, et les deux, je les ai gagnées ici. Alors... ça ne nous fatigue pas. Si c'est le cas, si on a l'opportunité de retourner ici, mais c'est sûr qu'on va se pointer et on va tout donner comme on fait d'habitude.
C'est intéressant ce que Danny Maciocha vient de dire. Il a gagné 2 Coupes d'Onsmore depuis qu'il est à la barre des Carabins. Dans les deux cas, il avait gagné le match ici, à Québec.
Au FM 93, l'avant-match avec Dan Pou.
Au 69... et à 25. B12!
Vitamine B12, électrolytes, antioxydants. En tout, 17 vitamines et minéraux. C'est ce qui fait la différence dans le tout nouveau Energex poudre effervescente d'Adrien Gagnon aux couleurs et saveurs naturelles.
B12! Bingo!
Pour un supplément d'énergie au bon goût fruité, fiez-vous à Energex d'Adrien Gagnon. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
OK, Honda de Giro, c'est un concessionnaire auto situé à Montmagny. Ça fait assez longtemps que je vous en parle, vous le connaissez. Et c'est toujours ouvert le samedi. C'est-tu le fun, ça? Samedi, on dit, ah, OK, on va prendre la journée, on va aller voir les autos chez de Giro. Ben, on sait que c'est ouvert. Ailleurs, des fois, c'est fermé, la grosse clôture. Pas capable de rentrer sur le terrain. Chez Honda de Giro, on est accueillant. On a complètement métamorphosé le garage. Avant ça, il était juste fin chez Honda de Giro. Maintenant, ils sont beaux et fins. Sortez même pas votre calculatrice. Quand vous magasinez une voiture, le plus important, c'est ce qu'on vous donne en échange. Chez Honda de Giro, tous les employés passent à travers un camp d'entraînement afin de connaître les subtilités de l'évaluation. C'est un processus en 4 étapes bien distinctes. Résultat, ils vont vous donner plus pour votre véhicule d'échange. Honda de Giro, à Montmagny.
Gens d'affaires, vous voulez apprendre à mieux négocier?
Le 24 octobre, Formax présente la tournée Classe Affaires. La négociation et la communication au cœur de vos affaires. D'abord, Sacha Gavamy, agent de Laurent Duvernay-Tardy des Chiefs de Kansas City, présente la conférence Négocier un plaisir et non un fardeau. Ensuite, améliorez vos communications afin qu'elles aient un impact positif sur les autres avec le réputé Guy Bourgeois. La tournée Classe Affaires le 24 octobre à l'Hôtel Québec. Billets et informations au formax.qc.ca.
Ça y est, le médecin de Lucie lui a prescrit une mammographie.
France vient tout juste de recevoir une lettre d'invitation, elle aussi pour une mammographie.
Toutes les deux ont choisi de prendre rendez-vous chez Clinix. La raison est simple, chez Clinix, on vous offre le service de dépistage double lecture. Vos résultats sont lus et analysés par un second radiologiste. C'est rassurant et gratuit pour vous. La mammographie de dépistage double lecture, un concept unique au Québec, offert chez Clinix.
Et gratuit pour vous. Clinix, parce que votre santé nous tient à cœur.
ClinixImagerie.com.
Les concessionnaires Kia de la grande région de Québec annoncent la grande liquidation des Forte 4 2018, édition hiver québécois. Avec pneus d'hiver et entretien 2 ans en cadeau, banc chauffant et caméra de recul inclus. Une Forte LX Plus tout équipée, automatique air climatisé, mag, rétroviseur électrique chauffant et plus. C'est le temps de changer pour une Kia, car tout est inclus à partir de seulement $18,545 avec garantie complète 5 ans, 100 000 km. En quantité limitée chez vos concessionnaires Kia de la grande région de Québec.
Le midi à Québec, des bons restos, il y en a un paquet. Mais si on enlève les restos qui n'ont pas de stationnement gratuit, si on enlève ceux qui ne sont pas dans le milieu de la ville à 5 minutes de partout... Puis si on garde juste les restos qui ont un nouveau menu du jour complet chaque semaine, à partir de $14 incluant l'entrée, le dessert, un service rapide et courtois dans un décor super débile écœurant, ben là, il en reste rien qu'un. Cécile et Ramon.
Notre métier, professionnel de la route. À l'aide d'un programme rigoureux et d'équipements adaptés aux standards de l'industrie, nous sommes là pour vous l'enseigner. Notre formation en transport par camion du Centre de formation en transport de Charlesbourg vous permettra, à votre tour, de parcourir le monde autrement.
Séance d'information au CFTC le 17 octobre à 19h. Tous les détails au cftc.qc.ca.
Difficultés financières? Mallette. Syndic autorisé en insolvabilité. Depuis plus de 75 ans au service des gens. Professionnalisme. Compréhension. Respect. Faites affaire avec de vrais experts. Mallette. Prenez rendez-vous pour une consultation sans frais en visitant notre site web llTT.ca. Mallette. Avec vous, là où ça compte.
Votre prochain hiver, vivez-le au volant d'un Sportage avec entretien 2 ans en cadeau, siège chauffant et caméra de recul inclus. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. C'est l'événement toujours en tête. Sportage à partir de $25,995. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
Dan Pour, c'est l'entraîneur, le fan, le gérant d'estrade, le journaliste. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
OK, on est rendu à la chronique NFL avec le collègue Will, comme on le fait chaque lundi. Exceptionnellement, c'est mardi pour aujourd'hui, étant donné le congé d'hier. Salut, Will.
Salut, mon cher Dan.
Will, juste avant qu'on parle de Drew Brees et de son nouveau record puis des matchs qui ont retenu ton attention en fin de semaine, là, je veux revenir sur Mathieu Betts, ouais. Parce que quand je le regardais jouer dimanche ici à Québec contre les Carabins, là, il y a eu son record, puis tout le monde est allé le voir. Les joueurs, les entraîneurs sont tous allés le visiter sur le banc des joueurs. Puis... j'en ai regardé jouer, puis je sais qu'il est pressenti pour être l'un des deux ou trois premiers repêchés au repêchage de la Ligue canadienne.
Le meilleur espoir au Canada actuellement.
C'est le meilleur?
Oui.
OK. Mais en même temps, je me disais, pourquoi il ne jouerait pas dans la NFL au lieu de jouer dans la CFL?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il aura sa chance, Mathieu Betts, d'évoluer peut-être un jour dans la NFL. Assurément, il aura la chance d'aller à des camps d'entraînement, des mini-camps là, au courant de la prochaine année. Bon, Mathieu Betts est éligible pour revenir une cinquième saison l'année prochaine avec le Rouge et Or. Mais moi, je pense qu'on peut écarter immédiatement cette option-là.
Ben ouais.
Il va jouer au football professionnel dès la saison prochaine, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Bon, moi...
NFL, le bug, excuse-moi de te couper, Will, mais NFL, contrairement pour les auditeurs, là, contrairement à... un Zadina ou peu importe qui vient d'être repêché dans la Ligue nationale de hockey, c'est que tu fais l'équipe ou tu ne fais pas. Il n'y a pas de club école dans la NFL. Là.
Aucun club école, exactement. Ben, il y a une équipe de pratique, d'entraînement, ah, tu as okay, 10 joueurs par
garder,
formation.
Mais tu joues pas.
Non, tu joues pas, okay. Tu fais les pratiques. Donc, okay. Effectivement, il n'y a pas vraiment de club école. Puis ouais. Bon, ça, c'est un autre débat qu'on est en train de parler aux États-Unis.
Ouais.
Moi, je me questionne un peu sur la grosseur de Mathieu Betts. Parce qu'aux États-Unis, des ailiers défensifs et des joueurs de ligne défensive comme Mathieu Betts, il y en a à la pelletée. Il y en a un puis un autre. Là. Il est 6 pieds 3. 250 livres, c'est quand même pas un petit gabarit.
À première vue, je dirais ça a de l'allure.
Ça a de l'allure, mais...
Mais tu vas me dire qu'aux États, c'est petit.
Ouais, puis les Américains recherchent à la position de Mathieu, les ailiers défensifs, des gars au moins qui mesurent 6 pieds 4, 260 livres. Okay. Mais par contre, c'est pas parce que t'as un pouce de moins que c'est sûr que tu accéderas jamais à la NFL. On s'entend, Dan. Puis au courant des dernières années, plusieurs clubs de la NFL ont jeté leur dévolu sur des joueurs plus rapides que plus costauds. On s'en va vers une ligne un peu plus rapide.
Okay.
Les lignes défensives et la ligue au grand complet est un peu plus rapide. Et même des joueurs de ligne offensive un peu moins gros, mais plus rapides, ont leur place maintenant dans la NFL. J'ai regardé des alliés défensifs comme ça qui jouent présentement dans la NFL. J'ai ciblé deux gars. Un gars des Cowboys de Dallas, DeMarcus Lawrence, et Yannick Ngakoue des Jaguars de Jacksonville.
Okay.
Ces deux gars-là ont terminé dans le top 10 des meilleurs joueurs pour les sacs du corps la saison dernière. Donc, c'est pas deux pieds de céleri.
Ouais.
Ils sont moins gros que Mathieu Betts.
Okay.
Et Mathieu Betts court le 40 verges, qui est une des compétitions football, des tests physiques plutôt, les plus importants. Alors, il court le 40 verges en 4,7 secondes, tout comme ces deux joueurs-là.
Okay.
Alors, il a la rapidité, il a des gars qui, il y a des gars qui ont le gabarit similaire de Mathieu Betts, qui évolue présentement dans la NFL. Alors, pourquoi il pourrait pas avoir une chance? Convaincu, Dan, qu'il aura un Pro Day ici à Laval, probablement au courant de la prochaine hiver.
Comme on avait fait avec Anthony Auclair.
Exactement, la même chose. Des recruteurs de la NFL devraient se déplacer ici à Québec pour le voir évoluer dans des tests physiques, dans certaines situations de football également.
Est-ce qu'il pourrait être repêché par la NFL?
Est-ce qu'il pourra trouver preneur parmi les 7 rondes? Peut-être, mais j'en doute.
OK.
C'est pas parce qu'il n'est pas repêché qu'il n'aura aucune chance d'évoluer dans la NFL.
Okay.
La première preuve, c'est Anthony Auclair. Il n'a pas été repêché.
Okay.
Puis il y avait à peu près 10 offres sur la table et finalement, il a signé avec les Buccaneers de Tampa Bay. Alors, moi, j'évalue les chances peut-être 7 sur 10 de Mathieu Betts d'évoluer un jour dans la NFL.
Okay.
Mais je suis convaincu, Dan, puis ça, c'est clair dans ma tête qu'il va jouer au football professionnel peut-être pour une dizaine d'années. Si c'est pas aux États-Unis, ce sera dans la Ligue canadienne de football.
En 20 secondes, parce que je veux qu'on parle de Drew Brees et du UFC quand même après, est-ce que le fait qu'Auclair est un produit de l'Université Laval et qui joue déjà dans la NFL, ça peut aider Mathieu Betts ou ça fait aucune différence?
Je te dirais oui et non.
Okay.
Anthony Auclair ne jouait pas dans la même université que Laurent Duvernay-Tardif et a quand même réussi à accéder.
Okay.
Je pense que la comparaison, le lien qu'on peut faire entre les deux, c'est Sacha Gavamy qui est l'agent de ces trois bonhommes-là.
Okay.
Sacha est bien plugué aux États-Unis quand même, a des contacts dans la NFL.
Okay.
Alors peut-être que ça pourrait l'aider quand même là-dedans. Donc je vois Mathieu Betts quand même évoluer au football professionnel un jour.
Drew Brees, dans une victoire de 43-19, est devenu le quart ayant amassé le plus de gains aériens dans l'histoire de la NFL.
Incroyable.
Évidemment, il a dépassé Peyton Manning et Brett Favre est au troisième rang. Des saisons de 5000 verges et plus, Brees en a 5. Les autres carrières en ont une ou zéro. Ceux qui en ont une, ils en ont juste une. Personne en a deux.
Exact.
Lui en a 5. Est-ce que Drew Brees est l'un des joueurs les plus sous-estimés de cette ligue?
Oui, encore à ce jour et depuis 15 ans. Il a commencé sa carrière avec les Chargers de San Diego et à peu près personne lui donnait ce genre de carrière qu'il connaît actuellement. Mais quand il est arrivé avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, on a découvert un nouveau Drew Brees, appuyé par une tête offensive incroyable de l'entraîneur-chef Sean Payton.
Okay.
Brees fait partie de ce système offensif-là, mais si t'as personne pour lancer le ballon et un gars digne comme Brees, ben tu peux pas mettre en action ton système offensif. Drew Brees est un gars sous-estimé qu'on ne reconnaît pas à sa juste valeur depuis une quinzaine d'années. Il est passé derrière les Tom Brady qui a plus de Super Bowl, Peyton Manning qui a des records, même Aaron Rodgers, on parle plus de Rodgers que de Drew Brees.
C'est vrai.
C'est un gars de 5 pieds 11 qui n'était pas nécessairement voué à une belle carrière comme il connaît présentement. Et c'est la détermination de ce gars-là. Puis j'ai eu la chance de le voir évoluer en personne la semaine dernière les Giants.
Ouais.
J'étais au MetLife Stadium,
ouais.
Giants, Saints. Et les petits détails, Dan, il remarque toujours les petits détails en défensive, va changer son jeu quand c'est important de le faire, va appeler un temps d'arrêt quand c'est important de le faire. Il est un maître pour contrôler ses joueurs en offensive. Drew Brees est un vrai de vrai, puis j'espère que maintenant on pourra le reconnaître à sa juste valeur. Une seule passe de toucher également pour atteindre le plateau des 500. C'est un GOAT, si on peut dire, à Drew Brees.
Bree drops back, looks long, far side. He's got a wide open receiver. It's caught at the 35, breaking the tackle. 30 from the 20 down the sideline, the 10, the 5, and it's a touchdown for Traquan Smith. Over the shoulder catch, 62 yards, and the record. Brees has done it. And Drew Brees has just become professional football's all-time leading passer on a touchdown pass of over 60 yards, 62 to be exact. He's just gone by Peyton Manning, and Brees has more passing yards than any quarterback in pro football history.
Avec une passe de toucher en plus. Hein?
Incroyable. Ouais, c'est vraiment bien fait pour Drew Brees. Je sais que tu es un grand fan de UFC, tu es un grand fan de Conor McGregor. Est-ce que la folie de l'adversaire, le Russe qui a battu McGregor, est-ce que ça va nuire au UFC dans les prochaines années?
Oh, absolument. Absolument. Quel zoo, cirque, œil au beurre noir pour l'UFC. Puis je pense même, Dan, là, puis c'est les grands responsables de cet incident qui s'est produit samedi. OK, je comprends, c'est Nurmagomedov qui a déclenché la folie générale en sautant par-dessus l'octogone. C'est McGregor qui avait des propos insensés, complètement déplacés lors de la promotion et du trash-talking de ce combat. Mais c'est l'UFC qui a voulu du sport-spectacle au courant des dernières années. Ils ont fait de plus en plus des promotions qui ressemblaient à la WWE. Ben là, ils ont craché en l'air. Puis ça leur a tombé dans la face. Okay. C'est carrément ça qui est arrivé. Dana White, écoute, voulait faire la promotion avec un incident qui a été jugé criminel en avril dernier. McGregor était débarqué au Barclays Center, faire le carnage en coulisses pour un gala UFC, avait attaqué un autobus qui était Nurmagomedov, et on s'est servi de cet incident-là pour faire la promotion du combat. On voulait du sport-spectacle, alors c'est ce qu'on a eu. Dommage, mais l'UFC a reculé de 20 ans à cause de cet incident-là.
Enfin, un gros merci, Will. C'est tout pour l'avant-match de ce soir. Je vous dis bonsoir. Merci.